équipés pour servir. Merci. La dernière fois, je vous ai parlé de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu dans sa présence. Quand Dieu est présent, quand Dieu est quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Et même ces quelques témoignages-là, si ça s'est passé de cette façon-là, c'est parce que Dieu était là. Amen. Dieu était là. Si Dieu n'est pas là, il n'y a rien qui se passe. Quand Dieu n'est pas là, tout va vers la mort. Et je vous ai parlé de ce témoignage de Jésus qui était sur la croix. Hein? Et puis il y avait un moment, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne pouvait pas mourir. Donc voilà, c'était Jésus, le Fils de l'homme, sur la croix. Et puis quand le fait que Jésus n'était pas là, Dieu n'était pas là, Jésus est mort sur la croix. Donc vous voyez, quand Dieu n'est pas là, il y a la mort, il y a la mort. Mais quand Dieu est là, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai retenu deux expressions de Sandy au départ, parce qu'au début je me suis dit, bon, elle commence par la prédication, mais bon, il faut être souple, il faut se laisser guider par Dieu, d'accord? J'écoute. Voilà, j'ai retenu deux mots forts. Il nous a parlé de libération, liberté, hein, libérer, le peuple libéré. La libération, tu te souviens peut-être, tu réalises peut-être même pas que tu as prononcé le nom la libération. Hein. D'accord, si. Et puis ensuite, tu disais le miracle. Voilà. Il faudrait réfléchir sur le contexte, mais il y avait le mot qui ressortait dans son introduction ce matin. Le miracle. Donc, quand Dieu est là, il y a quoi? Des miracles. Quand Dieu est là, il y a des libérations. Parce que rien ne peut résister contre Dieu. Rien. Tout est possible à celui qui croit. Alors, on dit tout est possible à Dieu, oui. Même si tout est possible, c'est lui qui croit. Et si nous croyons, Dieu est là. Pardon. Donc il y a quelque chose qui se passe. Donc là, ce matin, je vais juste apporter, continuer un peu dans cette pensée-là, que si nous voulons avoir des résultats dans l'évangélisation, combien j'encourage Colline avec cette vision au départ, voilà, et on n'a pas trop parlé, il venait plus tard, et il partait avant, et voilà, mais c'était, il m'a expliqué pourquoi, parce qu'au départ, on ne s'est pas parlé, tout ça. Et ensuite, il est venu me partager donc cette vision. Et combien j'ai apprécié cette vision, parce que les Américains, ça vous le savez, hein, les Américains en général sont très missionnaires, on est d'accord? Très missionnaires. Les Américains, beaucoup, hein, maintenant je connais un peu, hein, parce que, ah oui, vous avez été, ça s'est bien passé, ouais, pour vous aussi, ils ont été en Amérique. Ouais. Et les Américains soutiennent les missionnaires, envoient de l'argent, il y en a qui vont même au culte, envoient leur dîme, parce que ça fait dans la culture de chrétien, de donner la dîme à l'œuvre de Dieu. Donc, il y a des moments un peu comme ça, et ils regardent un peu les émissions à la télé, où ils sont un peu refroidis, mais dans leur mentalité, il faut soutenir un ministère, il faut soutenir un missionnaire, il faut soutenir un bâtiment, il faut faire quelque chose, voilà, c'est un peu dans... C'est vraiment dans la mentalité, voilà. Et ils ont réfléchi, les Américains. Et c'est juste pour interpeller votre réflexion. Et ils se sont dit, le café, ah ben c'est très français. Hein. Il y a 40 ans, l'été, c'était très anglais. Aujourd'hui, c'est déjà café, hein, c'est ça? Mais il y a 40 ans, j'étais jeune, en Angleterre, c'était le thé partout. Aujourd'hui, après, il n'y a pas longtemps, on a été en Angleterre, on nous donne du café. Ah bon, vous buvez le café? Ah bon, d'accord, ça va. Vous comprenez? Mais les Américains savent que en France, c'est le café. Ils ont cherché. Voilà. Vous voyez, j'essaie d'interpréter cette action. Que, en France, c'est le café. Bon, on va donner quoi? On va offrir le café. Et puis, ce n'est pas la question d'offrir les cafés, mais avec le café, nous ouvrons la porte vers le dialogue. Et j'étais là samedi parce que Colin n'était pas là, mais tu sais, ils étaient 15 ou 20 personnes là. Ils t'ont dit, combien? Bon, excusez-moi, 23. Oh là là, elle revendique, hein. 23. Donc, je suis venu, parce que vous avez annulé la réunion des jeunes, pour aller dans la rue. Ben voilà, ça, c'est bon. Et je me souviens, deux ou trois jeunes qui sont venus nous voir, il y avait donc Roger qui était chef, hein. On nous a dit, mais comment faire? J'ai jamais pratiqué, je suis jamais venu. Et puis on lui a dit, écoute, tu vois, il y a tout un groupe, il y en a plusieurs qui ont déjà fait, et vous venez, et puis vous regardez de loin, et vous priez dans votre esprit, vous priez, c'est déjà bien, et puis vous allez voir. On est arrivé là, et puis 10 minutes après, la même personne, Jason, qui n'est pas là ce matin, mais un gars qui se cherche encore, et il dit, si mes copains vont me voir que... Il nous parlait comme ça, c'était impressionnant. Et 10 minutes après, je voyais tous ces jeunes, ça parlait, ça invitait, il y en a qui priaient pour quelqu'un. Oh, j'ai dit, Seigneur, c'est formidable ça. Pourquoi? Ah, parce que Dieu est là. Parce qu'on a prié ensemble. On a dit, Seigneur, l'essentiel, c'est annoncer la vie là où il y a la mort. Si Dieu est là, il y a quelque chose qui se passe, même ceux qui sont pour la première fois. Pourquoi? Parce que vous proposez le café. Et pourquoi vous faites ça? Ah, c'est bien! Ah, le café, ah, il y a le sucre, vous comprenez, il y a le dialogue, ah, ils sont touchés, vous avez déjà fait le 50% du boulot. Et puis, la question, ce n'est même pas le café, la question, c'est que le café est une porte par laquelle nous rentrons dans la vie des autres pour leur donner un conseil éternel. C'est beau ça, hein? Alors, je vous encourage, je encourage tout le monde. Et même s'il faut de l'argent, il faut mettre un paquet pour tout ça. Parce qu'il faut aussi avoir de l'argent pour l'évangélisation. Même s'il faut chauffer un peu moins ici et donner pour sauver les âmes. Bah. Ça va? C'est bon? Alors, il y a toutes ces bonnes choses-là. Très bien. Équipez donc pour servir. Alors, regardez, quand vous allez chez le médecin, vous avez compris que le médecin est équipé, un dentiste est équipé, un garagiste est équipé, un cuisinier est équipé de quoi? D'un matériel pour pouvoir exercer quoi? Son ministère, sa mission, son travail, etc. Il est équipé. Imaginez-vous si un cuisinier donc se retrouve sans rien et il doit faire le gâteau ou un repas, il n'a rien, rien, il n'y a pas de cuisinière, il n'y a pas des choses là. Ah ben, il peut pas faire grand-chose, d'accord? Et puis nous, spirituellement parlant, nous sommes appelés pour une mission, d'accord? Pour servir, nous sommes sauvés pour servir. Donc, nous avons besoin d'un équipement. Amen, on a besoin d'un équipement. Si on est sans Dieu... Si on est tout seul, si on n'est pas approuvé, si on n'est pas soutenu, ben on ne peut pas faire grand-chose dans le domaine spirituel. Ça, il faut être humble et reconnaître que c'est une réalité. Alors regardez, Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 3 et le verset 11 nous parle de Jean-Baptiste, du message de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, vous savez qui c'était? C'était le cousin de Jésus, selon la chair, bien sûr. Et c'était celui qui parlait de Jésus, c'est lui qui disait, ben voilà, Jésus, enfin c'est lui qui plus fort viendra donc après moi. Donc lui nous a dit dans le Matthieu 3 verset 11, nous dit, moi je vous baptise d'eau, d'accord, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Par le biais de ces quelques versets, nous allons chercher un équipement spirituel, un équipement surnaturel pour pouvoir pouvoir, quoi? Donc, témoigner, pour pouvoir servir, pour pouvoir aider, etc. Donc, regardez, Jean-Baptiste nous parle du Saint-Esprit, mais ça sera plus clair un peu plus loin. On va prendre donc le verset 16 qui nous dit quoi? Dès que Jésus eut été baptisé, donc l'histoire nous raconte, je ne vais pas tout lire, le baptême de Jésus, Jésus est venu vers Jean-Baptiste pour être baptisé, d'accord? Et Jean-Baptiste ne voulait pas parce qu'il savait que Jésus était plus grand que lui, mais Jésus lui a dit, laisse faire, il faut que la justice de Dieu s'accomplisse, etc. Donc Jean-Baptiste l'a baptisé. Et puis, regardez ce qui se passe plus loin. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. D'accord? Donc, on parle de baptême d'eau. Baptême d'eau. Baptême d'eau, c'est quoi? Quand nous allons baptiser, on va vous baptiser. Ici, on va juste vous donner quelques gouttes d'eau. On va juste regarder l'eau? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les immerger, plonger. D'accord? Plonger, c'est un symbole. Symbole, c'est-à-dire, nous mourons pour quelque chose qui est mortel, pour pouvoir vivre dans l'éternité. C'est un symbole, c'est une préfiguration. D'accord? Donc, le baptême est un mot très, très fort, très puissant. Et voici les cieux s'ouvrir. C'est un deuxième message qui arrive. D'accord? Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Sur qui? Sur Jésus. Voilà, vous voyez que Jésus lui-même, il a reçu quelque chose de surnaturel, spirituel, d'accord, pour être équipé pour faire ce qu'il a fait. Vous savez qu'il a fait beaucoup de choses. S'il restait qu'un homme physique, s'il restait juste le Fils de l'homme, sans avoir le Saint-Esprit, il n'aurait pas pu faire grand-chose. Oui, on peut faire quelque chose. On travaille un peu, vous savez. Mais là, il est question d'un équipement spirituel, un équipement surnaturel pour faire les choses qui sont impossibles à l'homme, mais c'est possible par la foi en Jésus-Christ. Et c'est pour ça, quand ça a été dit, le miracle, oui, le miracle. La libération, le miracle. Nous sommes appelés pour servir, libérer et vivre aussi les miracles. Donc, regardez l'équipement de Jésus. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voilà. Et si on prend plus loin, là, je vais vous montrer que finalement, Jésus s'est servi de cet équipement surnaturel. L'évangile de Luc, chapitre 4, et le verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc, retenez tout simplement les expressions fortes de ces versets. Jésus, d'accord. Revêtu, c'est un mot très, très puissant. Revêtu. D'accord? Revêtu. De quoi? De la puissance. Je vous ai parlé de la puissance. Nous avons besoin de la puissance déjà, nous, pour bouger, pour faire quelque chose. Ici, pendant un mois, j'ai traîné le sciatique, là. J'ai perdu beaucoup d'heures sur mon canapé. Le médecin m'a dit, repos, rien faire et tout ça. Et pour moi, à moi dire, restez, reposez-vous, il faut beaucoup. Il y a des gens qui m'ont embêté en disant, va chez le médecin. Ah, mais qu'est-ce qu'il peut faire le médecin, soulager un peu? Vous comprenez? Donc, c'est, on perd la puissance, voilà. On est affaibli dans notre corps. Je ne pouvais même pas prendre un kilo. Je ne pouvais pas aider Christiane. J'ai dû annuler beaucoup de rendez-vous. Quelquefois, j'ai téléphoné chez Renald, le mercredi soir. Je ne vais pas venir parce que j'avais besoin d'un peu de repos. Quand je roulais, j'avais mal. Bon, ici, ça va mieux. C'est 9 sur 10, donc c'est bon. Dimanche prochain, je vais déjà sauter. C'est bon, j'ai commencé aujourd'hui, mais ce n'est pas encore ça. Donc, voilà, c'est pourquoi je vous raconte ça. Vous, la même chose, hein, quand Jérémie nous a parlé de la maladie, le corps est quoi? Affaibli. On n'a pas de puissance. Donc déjà, dans le domaine physique, nous avons besoin de force, de puissance. Dieu nous a équipés des choses, des capacités naturelles. Ce sont des talents, de la force, etc., naturelles. Mais là, on parle de quelque chose surnaturel. Voilà. Donc, Jésus revêtu la puissance de l'esprit, la puissance de l'esprit. Il ne s'agit pas de la puissance naturelle, de la puissance physique, mais la puissance de l'esprit. L'esprit. L'esprit égale Dieu, hein. D'accord, hein. Retourna au Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Donc vous voyez, c'est juste cette expression que Jésus était équipé. Jésus était revêtu de la puissance de l'esprit, et puis ensuite, il s'est mis au service. Il s'est mis en route, en travail. Il a commencé à exercer son ministère. Voilà, service. Donc, cette promesse, voilà, on peut lire encore donc là, on a lu 17. Hein. 18, le verset 18, on peut revenir voilà, revêtu, d'accord, 14, et le verset 18. Le verset 18 nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous voyez, c'est ce que je n'ai pas enlevé, vraiment. L'Esprit du Seigneur est sur moi, d'accord. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le surnaturel est sur moi. J'ai une puissance surnaturelle pour faire des choses extraordinaires que vous connaissez. Donc regardez l'équipement, c'est un équipement surnaturel, spirituel. Jésus lui-même avait besoin, voilà, un équipement surnaturel pour faire des choses extraordinaires, pour faire des choses, pour faire les miracles, pour apporter la libération, etc. Alors, pour nous, il y a aussi une promesse. Il y a aussi la promesse pour l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Je répète ça souvent, ce n'est pas juste les bâtiments. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est les chrétiens dans le monde entier. Dans n'importe quel pays, vous allez retrouver les gens. L'expression est différente. Quelquefois, les gens, vous allez trouver les gens à genoux, assis, debout, hurler, crier dans les silences, peu importe. C'est pas ça qui est plus important. Plus important, c'est que tout ce peuple dans le monde entier a la même vision, le même objectif, c'est la personne de Jésus. Quand vous êtes en Afrique, dans certaines églises, ça chauffe tellement que il fallait boucher les oreilles parce que juste le corps ne résiste pas, n'est pas habitué. Quand vous allez en Amérique du Sud, chez les Hispaniques là-bas, ça chauffe tellement, ça crie tellement qu'il faut vraiment s'habituer à ça. Et puis vous allez dans d'autres pays, c'est calme, comme la mer, vous comprenez. Puis j'étais dans une pastorale il n'y a pas longtemps et c'était le président d'une fédération d'églises en France. Voilà, qui a partagé les choses. Il dit, vous les charismatiques, vous avez compris ce que ça veut dire, pentecôtistes, enfin ceux qui vivent le Saint-Esprit, ceux qui exercent le Saint-Esprit, ceux qui prient par le Saint-Esprit, qui prophétisent, qui croient en dons spirituels, qui croient en choses surnaturelles. Mais pour lui, La foi, pour lui, c'était la tête, juste intellectuelle. Et il nous a dit, mais moi, je vous comprends parce que vous avez quelque chose de plus. Vous avez besoin d'un culte de 2 heures, un culte de 2 heures et demie. Et si vous êtes 3 heures dans un culte, ben, c'est pas encore trop parce qu'il y a des choses, voilà, dans votre, il y a des choses, il y a le vent, il y a quelque chose que je maîtrise pas très bien. Et il nous a expliqué comme ça. Mais il dit, moi, j'ai pas besoin plus que 30 minutes. 30 minutes. Il dit, moi, c'est juste écouter quelques versets bibliques, un peu de méditation, puis à la fin dire merci Seigneur pour tout ça, et je suis rempli pour la semaine, je suis content. Alors moi, je lui ai répondu, nous, on lui a répondu, ben nous vous respectons, c'est bon. Je ne suis pas là pour les critiquer, vous comprenez ce que je veux dire. Mais lui, il nous a compris que nous, il faut que ça chauffe. Voilà. Donc moi, je vois un peu ça à droite à gauche, j'ai vu tout ça, ben, on essaie de d'équilibrer plus ou moins au milieu, hein, pas à l'extrême, là, 20 minutes ou 5 heures, quelquefois, mais on essaye d'être équilibré, et puis ensuite, Dieu fait les choses. Les Actes des Apôtres, le premier chapitre, il est versets 4 et 8, donc là, vous allez comprendre que oui, Jésus était équipé, mais nous avons reçu une promesse aussi pour avoir un équipement. On nous donne, on nous offre gratuitement, juste par la foi, un équipement spirituel, un équipement surnaturel pour pouvoir faire des choses. Et ça, c'est passionnant. Je vais vous donner un témoignage tout à l'heure actuel. Vous allez voir ce que Dieu fait. C'est formidable. C'est formidable. Les Actes des Apôtres, les premiers chapitres, les versets 4 et 8, pardon, est-ce que c'était... Oui, voilà. Comment il s'est trouvé avec eux, donc Jésus, avec les disciples, j'abrège, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de quoi ? De Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc il est question de la promesse. Dieu a promis quelque chose. Formidable. Pourquoi ? Pour moi, pour toi et pour moi. Pour les chrétiens, pour l'Église. La promesse. C'est quoi cette promesse? Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, hein, on a vu, hein. Même Jésus est passé par le baptême d'eau, et après il était revêtu, d'accord? Le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Donc Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est qui? C'est toi et moi, non? Amen. Mais vous, dans peu de jours, donc là, il s'adressait aux disciples, hein, aux apôtres à l'époque, mais cette parole nous concerne, vous serez baptisés de quoi ? Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, baptisé. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétablis là le royaume d'Israël ? Ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Mais pour nous, ce qui est intéressant ici, c'est que, voilà, il y avait la promesse pour tous les chrétiens. Et donc, il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître, d'accord. Et voilà, le verset 8 nous dit, mais vous, recevrez quoi ? Une puissance. Vous recevrez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Une puissance de Dieu. Vous recevrez quelque chose. Surnaturel. Spirituel. Survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, de toute la Judée, de toute la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Ce sont les versets qui me poursuivent depuis 40 ans, depuis ma jeunesse. À plusieurs reprises, je voulais changer quelque part, parce que vous savez, on vit dans un monde, mais aussi évangélique, chacun tire de son côté, et puis... Voilà, donc il y avait un moment où il fallait faire pour la famille, on venait nous voir. J'étais tenté de faire les choses pour la famille. Il y avait un moment où c'était Israël, Israël, Israël. Combien j'aime ce pays et combien j'ai prié pour Israël. Et quelquefois, il y a des pasteurs qui me demandent est-ce que ça vaut la peine d'aller en Israël. Ben, j'ai dit, tu prêches toute la vie, va au moins une fois et puis va voir Israël parce que tu ne peux pas contourner Jérusalem dans la Bible, la Pentecôte, le Jourdain, voir un peu comment ça s'est passé. Mais j'ai dit, garde les pieds à terre. Voilà. Et puis la même chose, voilà, on m'a tiré vers dans ce sens-là. Et j'y reste avec ma conviction. Je suis allé en Israël. Quand on va dans ce pays-là, ça fait quelque chose. Ça. C'est tellement... On voulait être vraiment à deux, même pas dans le groupe, pour ne pas nous casser les oreilles, mais pour vivre personnellement les choses. Mais chaque fois, le Saint-Esprit m'a interpellé. Mais la vision que j'ai donnée dans ton cœur, c'est pas ça. Il faut toujours revenir vers la vision initiale. Initiale. Annoncer l'Évangile. Prêcher l'Évangile. Prêcher la bonne nouvelle. Prêcher les saluts. Et puis chaque fois, le Seigneur m'a repris en disant, mais ce n'est pas ça la vision. Tu peux t'intéresser, tu peux bénir, mais la vision pour toi, c'est ça. Parce que le Saint-Esprit nous interpelle. Donc vous voyez ensuite la promesse, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour toi et moi, c'est pour les chrétiens dans le monde entier. Amen. Alors, le baptême du Saint-Esprit. Donc, vous avez, il y a des expressions dans la parole de Dieu, en vous, revêtu de la puissance, sur nous, sur moi, rempli, donc vous savez, rempli, hein, le verre, voilà, il faut le remplir, d'accord? Donc, d'être baptisé veut dire tout ça. Il est en vous, il est sur vous, vous êtes revêtu. Il est sur toi, sur moi. Je suis rempli. Donc, si je vais prendre la bouteille d'eau là, qui est dans ma... Ah ben, hier, on a été écouter Germain. Et au moment où je suis entré dans la réunion, parce que je suis allé juste pour une heure pour lui dire bonjour dans une réunion à Roubaix, à Tourcoing. Eh ben voilà, il prêchait ma prédication. Justement, symbolisé ça différemment. Donc vous voyez, il y a de l'eau dans cette bouteille-là, d'accord? Il y a de l'eau remplie. Cette bouteille est remplie. Mais imaginez-vous si elle est vidée, d'accord? Si elle est vidée et puis elle n'est pas remplie à nouveau, bon, ben, c'était juste pour un petit moment, d'accord? Mais si cette bouteille, parce que voilà, on est rempli de la puissance de Dieu, on travaille, on est en action, on est comme une batterie, on se décharge. Il y a des combats, il y a des difficultés. On n'est pas parfait, hein, déjà dans notre corps. Hein. Moi, je sais que je ne suis pas parfait. Hein. Bon, je ne vais pas vous raconter mes petits péchés, hein, mais... Je pense qu'il y en a quelques-uns, hein, que je lutte avec tout ça, quoi, hein, même dans mes pensées. Hein, dans mes pensées. Il y a les combats, il y a les difficultés et tout ça. Voilà, et on doit être toujours renouvelé par le Saint-Esprit. Mais si on vide l'eau de ça, voilà, on donne. Et si on n'est pas, hein, on ne va pas remplir à nouveau cette bouteille, et puis si on va jeter la bouteille dans une piscine, vous avez vu, dans une piscine. Et si la bouteille est vide, mais fermée, d'accord, et vous jetez dans une piscine, qu'est-ce qui se passe? Comment? Déjà, elle ne se remplira pas, et elle va flotter. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ramasser la bouteille et on va mettre où? Dans la poubelle. On est quand même mieux que la poubelle. On n'est pas destiné, nous, à la poubelle. On est comme des vases, nous, des vases. D'accord? Donc, imaginez-vous un vase. Alors, si on ouvre la bouteille vide et on jette dans une piscine, qu'est-ce qui va se passer? Plus fort. Voilà. Donc, elle va se remplir d'eau. Donc, ça veut dire que cette bouteille sera remplie, de l'eau sera sur la bouteille, en bouteille, revêtue, voilà, mouillée, tout le tour. Donc nous, quand on est baptisé du Saint-Esprit, et si on ouvre les bouchons, on ouvre notre cœur, on met la foi en action, qu'est-ce qui va se passer? Notre vie est remplie du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, d'une puissance. Donc là, on va dire, le Saint-Esprit est en moi, je suis revêtu, parce que baptiser, c'est plonger, hein, quand dimanche prochain, vous allez sortir de l'eau, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura des serviettes à côté pour... Voilà. Donc, le Saint-Esprit à l'intérieur, le Saint-Esprit autour, donc en vous, en nous, revêtu, sur nous, en moi, rempli, rempli. Mais si la bouteille vide est à nouveau fermée, ben, il n'y aura jamais de l'eau qui entrera dans cette bouteille. On est d'accord? Et ces bouchons, souvent, c'est quoi? C'est mon raisonnement. C'est mon incrédulité. Je connais plus que la Bible. C'est pas ça. La révolte quelque part, quelquefois. Les péchés qui nous empêchent d'aller plus loin. Les bouchons, voilà, c'est ça. Notre philosophie, qu'est-ce qu'on entend comme des commentaires, des explications? Mais souvent, moi, j'ai dit, je n'aime même pas d'entrer dans des commentaires. La meilleure solution, c'est vivre, c'est expérimenter, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Donc vous voyez, c'était la promesse. Dieu a promis pour nous équiper d'un équipement surnaturel pour pouvoir résister contre les attaques diaboliques, pour être plus performant dans notre service, d'accord, pour pouvoir aider ceux qui ont vraiment besoin de Jésus. Alors, je vais reprendre donc encore Luc 4, les versets 18-19, s'il vous plaît. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, même si les gens ont beaucoup d'argent, mais qui ne connaissent pas Jésus, ils n'ont pas l'héritage éternel, donc ils sont pauvres. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un homme qui m'a dit, je suis vraiment financièrement blindé. Ça veut dire quoi blindé? Il y a de l'argent autour de moi, j'ai du fric. Hein. L'argent. Là, c'est bon. Mais seulement, il a déjà le chevet gris. Hein. Les années passent, on est d'accord. Hein. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu es heureux parce que tu es blindé? Et il m'a dit, je ne suis pas heureux. Oh, ben moi, je suis déjà heureux en Jésus. Si j'étais blindé en plus, j'aurais pu mieux aider les autres. Le Seigneur, il s'est trompé. Hein. Ah bon, tu n'es pas heureux. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Non, il me manque quelque chose. Vous avez compris quoi? Pour nous, c'est clair. Et il lui manque Jésus. Il lui manque l'assurance. Il lui manque la certitude pour la vie éternelle. Voilà. Donc, il lui manque cet équipement pour pouvoir aider les autres différemment. Donc, voilà, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé aussi. D'accord? Pour proclamer aux captifs, quoi? La délivrance. Mais tu es appelé pour ça, pas que Jésus. Jésus est en toi. Avec lui, nous sommes appelés pour faire tout ça. Il m'a envoyé pour guérir, je répète, ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Sandy, tu parlais de la libération, la délivrance. C'est ça, pour libérer les gens, d'accord? Aux aveugles, les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Il y en a dans ce monde-là, des gens comme ça? Il y en a, hein? Rita, il y en a, tu penses? Voilà, imprimé pour publier une année des grâces. Ça, c'est le temps que Dieu a accordé. Et puis, c'est le temps avant, maintenant, actuellement, pour que l'évangile soit sauvé. Nous avons le privilège d'être remplis. Sauf si tu bouchons ton cœur, ah ben, t'es pas rempli, hein. T'es pas équipé. T'es pas prêt, tu vas te battre avec tes forces personnelles et on se fatigue très vite. Alors, mes amis, ouvrons les bouchons, laissons-nous remplir par des choses surnaturelles et puis vous allez voir autour de vous ce qui se passe. Alors, je vais appeler juste ici Claude, notre ami Claude. Et voilà, Claude. Je vous ai déjà dit, mais dimanche passé, on était à Waterloo ensemble, parce que je le suis. Il était aussi à Arras, et il suit Vincent depuis Valenciennes, etc. Et Claude a donné sa vie à Jésus il y a 15 ans, c'est ça? Et après, il a décroché sur le monde à fond. Et puis Claude avait un travail, il a bien gagné sa vie. Il a mis un paquet d'argent sur le côté, pas marié, donc pas d'argent pour les cadeaux, pas de l'argent pour des fleurs, pour les enfants. Vous comprenez, bon, nous les mariés, ça nous coûte, à la femme, ça nous coûte. Bon, je caricature un peu, mais voilà. Et puis Claude, il a mis de l'argent, et tout à coup, l'ennemi, il s'est dit, oh là là, je vais aller me servir de ces finances-là. Je vais les dépouiller. Je passe les détails. Mais je lui ai demandé si je peux raconter ça, parce que là, vous voyez ce qui se passe. Et puis l'ennemi venait chez Claude et il lui a dit, Claude, ce mois-ci, j'ai besoin de 3 000 euros. Pour des choses... Pas bon, hein? Et Claude sortait 2005. Claude sortait aller chercher à la banque 3 000, 3 005. C'était ça, Claude? Plus ou moins? Parfois plus, il me dit plus, donc je minimise. Hein. Et en quelques mois, Monsieur Satan a dépouillé Claude. Plus un héros. Allô? Ça vous dit quelque chose? Ensuite, spirituellement, il s'est retrouvé dans un état difficile, pas la paix, pas la joie, mais c'est le trou devant moi. Le tabac, il fumait pour 300 euros par mois. Plus ou moins, un peu moins. 250, bon. On ne va pas disputer pour 50 euros. Mais 250 euros, c'est beaucoup, non, par mois? Allô? Alors, comme nous faisons les affaires avec Dieu, avec le Saint-Esprit, donc moi je lui ai dit, très bien, nous prions avec toi, on te suit de près, on ne te lâche pas, parce que tout de suite Satan, maintenant, comme tu n'as pas de sous, il t'a vidé, il t'a dépouillé, ben maintenant il va réclamer ta vie. On est d'accord? La santé, la vie, etc. Donc c'est lui qui est venu me voir, il m'a dit, j'aimerais être libéré de ce tabac. Alors d'accord, on a déterminé une stratégie d'action. J'ai dit, c'est difficile pour toi, tu viens de loin, c'est terrible, tu es démoli pendant 15 ans, l'organisme, etc., etc., y a plus, la foi n'est plus là. Alors, on va commencer par 2 cigarettes par jour au moins. C'est lui qui est demandeur, c'est moi, c'est pas moi. Moi, je ne le juge pas, je suis là pour l'aider. Hein. Surtout, ne jugez pas les gens hein, quand ils ont besoin d'une aide. Hein. Et puis, on est descendu là à 21. Hein. C'était le mardi. Mercredi, ça devait être 21. Donc, on a descendu, 21. Donc, ça marchait. Et puis là, je lui ai dit, le mardi, on était à la réunion de prière à Waterloo. J'ai dit, est-ce que tu es prêt de couper tout ça? C'est trop long, ça, on dépense de l'argent. Et il dit, Antoine, je ne suis pas encore prêt. Très bien, je respecte. C'est lui qui c'est son combat, ce n'est pas le mien. Moi, je suis là pour aider. Et Fred Arbrecht, qui était à côté, il dit, bah, attends, dis pas comme ça, on n'a pas encore prié. Ah oui, on n'a pas encore prié, prends pas la décision avant la prière. Pour de la prière, ça peut changer. Quand Dieu est là, ça bouge, ça chauffe, il y a quelque chose qui se passe, on prie, on cherche Dieu. On a vu la puissance de Dieu qui est descendue sur lui. Et il s'élève, il m'a dit, Antoine, j'arrête. Et j'ai demandé à son frère Daniel, allez chercher le tabac dans la voiture. Ils sont allés chercher, on a écrasé le tabac. Pendant la prière, on a écrasé. Et puis, quelques jours après, on s'est vu vendredi ici, à la réunion de prière. Il dit, c'est bon, mais c'est dur. J'ai pas pris la cigarette. Alors ce matin-là, je le vois là. Puis je m'approche là. C'est gentil parce que j'aimerais pas autant de. Ça serait dur pour moi d'entendre les paroles de Claude qui me disait j'ai craqué. Ça serait très dur pour moi. Donc. Mais bon, on a vu ça. Hein, on a vu ça. Et puis Claude m'a dit non, j'ai pas pris. C'est bon. Mais c'est dur. Pourquoi je vous raconte ça? Libéré de Claude. Libéré de Luc, de ses doutes. Libéré d'autres choses. Vous savez, vous pensez que la parole, ça suffit? S'il n'y a pas Dieu, notre parole n'a aucune puissance. Mais s'il y a Dieu, ah ben vous allez voir des gens comme Claude. D'être libéré de toutes sortes d'impuretés, de péchés, etc., de la condamnation, du tabac. Et vous savez, l'œuvre de Dieu a besoin des finances. On est bien d'accord. Chaque dimanche, vous faites donner la dîme. Sandy nous a dit, ses parents, ils ont déjà inculqué la dîme quand elle était petite. Et comme elle a obéi, ça marche. Mais en même temps, on est béni. Alors moi, j'ai dit à Claude 250 euros. À moitié pour l'Église, à moitié pour toi, tout le monde est gagnant. Allô? Vous avez compris? C'est juste une partie, hein, parce que Satan venait chercher 3 000, même plus. Alors Satan, la dîme, ce n'est pas assez pour lui. Tout ce que tu as, il veut te prendre tout ce que tu as, il veut prendre ta santé, il veut te détruire. Mais Dieu nous a libérés de tout ça. Nous n'étions pas meilleurs que Claude. Claude n'a pas mérité, mais toi non plus, tu n'as pas mérité. Nous n'avons pas mérité. Tout est la grâce. Maintenant, Claude, c'est un témoignage parmi les autres. Chacun, moi, je n'ai pas vécu sa vie, vous comprenez. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et puis parmi vous, certains, d'autres viennent du monde. Comme Chanel, elle est venue nous raconter son témoignage avant qu'elle soit séduite par Alexis, pardon. Bon, c'est une bonne séduction. quand elle nous a raconté sa vie. Et quand on a appris que Chanel est rentre dans la famille. J'ai prié pour Christian. Et aujourd'hui, on est tellement heureux. C'est petite Chanel. Je dois faire attention parce qu'on m'a déjà dit, bon, c'est à Chanel. Mais non, je vous aime tous. Mais pourquoi? Parce qu'elle vient de loin. Elle vient de loin. Elle était dans le trou. Elle était déjà démolie dans sa jeunesse par les péchés. Et là, les souris. Mandy, c'est formidable, hein? Ah, avec Jésus. Que pensez-vous? Mais quand je suis là à côté de Claude, je dis, Seigneur, je ne vais pas les lâcher. Priez pour Claude. Priez pour Claude. Mais Claude est le symbole de beaucoup d'autres Claude, de François, des gens équipés pour délivrer, équipés pour guérir, équipés pour apporter des solutions. Amen. Quelle belle mission. Je ne m'attendais pas à ça quand je découvre toutes ces choses. J'apprends tout le temps. Je découvre des choses. Je suis tellement excité, content, tellement heureux de servir Dieu, de communiquer la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a donné un équipement et il faut toujours ouvrir le bouchon, le cœur. Renouvelle-moi. Donne-moi les forces. C'est possible qu'aujourd'hui, enfin ce matin, si Sandy, tu peux déjà monter, on va chanter un chant. Et si quelqu'un parmi vous, vous avez un problème à quelque part, pas le même que Claude, peut-être le travail, peut-être l'enfer en travail. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, je ne supporte pas maintenant l'ambiance de mon travail. Mais si Dieu est là, ça peut changer, on est d'accord? Si quelqu'un a un problème quelque part encore avec un péché qui les lie, si Dieu est là, ça va se faire comme pour Claude avec le tabac et puis avec d'autres choses. Amen. Si vous êtes quelquefois, il y en a qui me disent c'est difficile, c'est dur, je suis un peu entre les deux chaises. C'est pas confortable d'être assis entre les deux chaises. On est d'accord? Alors on va choisir une bonne chaise, là où il y a Dieu. Alors Seigneur, aide-moi. Et puis après, on est heureux. Voilà, on va juste prier. Et puis après, je vais vous appeler juste de demander. Je vais vous demander de vous approcher là devant. Ensemble, on va terminer dans un esprit de famille, d'unité. Et puis on va ensemble réclamer l'équipement du Saint-Esprit. Moi, chaque matin, je me réveille, Seigneur, j'ai besoin d'une puissance. Seigneur, je me réveille, je vais discuter avec des gens. Je vais me retrouver devant les malades. Je vais me retrouver avec des gens qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Seigneur, remplis-moi, fortifie-moi, édifie-moi pour que je sois quoi ? Efficace. Efficace. Nous avons prié pour deux, il n'y a pas longtemps, pour deux dames donc de racines islamistes. Et puis, depuis des années, voilà. Et puis, on a une qui disait, je suis poursuivi par l'islam. Cette dame, elle devait être là ce matin. Elle n'est pas là. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu es là, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Mais sachez que vous êtes précieux. Savez que Dieu vous aime. Savez que nous avons un privilège. Et nous sommes héritiers de Dieu. Tout est par la grâce. Avec lui, nous pouvons faire des affaires. Alléluia. Alors, on va continuer à prier pour Luc et puis Jérémy aussi. Hein. Si vous pouvez vous approcher là, on va vous aider. Juste briser le doute, hein, comme il disait. Vous l'avez entendu, hein? Si vous allez lui dire, j'ai Luc, ça ira mieux. Hein. Mais lui, il va partir, il va souffrir. Ce qu'il faut, c'est libérer la puissance de Dieu pour qu'il soit libéré, pour qu'il nous dise, c'est fini. Je lève la tête. Amen. Oh! Formidable. Oh là là. Oh là là. Qui veut venir ici pour serrer dans ses bras, Luc?
Moi,
Un homme, un homme, un homme, un homme, pas une femme. Il y a quelqu'un qui va venir ici avec.
Allez, debout, debout, là.